L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on s'en va du côté des réserves naturelles, notamment celle de l'île de Groix ou celle de Séné. On reste donc en Bretagne. Notre invitée est anthropologue. Elle travaille sur la matière humaine. Elle a notamment travaillé sur l'art en Équateur, sur le monde des arts premiers, leur supposée authenticité. Elle quitte le champ artistique en Bretagne pour explorer donc les réserves naturelles et les relations aux habitants, l'appropriation des espaces qu'on dit patrimonialisés, les politiques environnementales. Elle est doctorante au Muséum National d'Histoire Naturelle, au laboratoire PALOC, Patrimoine Locaux, Environnement et Globalisation. Son sujet de thèse est assez facile à comprendre. Composé avec les outils de protection de la nature, les relations entre habitants et réserves naturelles en Bretagne, une thèse sur laquelle elle travaille jusqu'en 2024. Elle s'appelle Lorena Cisneros Armas. Bonjour.
Bonjour.
Alors, bien en face du micro.
Oui.
Oui, voilà. Alors, moi, je voulais commencer quand même par une question un peu provoque, puisqu'il y a des personnes qui se posent la question de l'utilité de faire des recherches en sciences humaines sur des sujets liés à l'écologie. Alors, qu'est-ce que vous pourriez leur répondre, vu que c'est vraiment votre sujet ?
Alors, l'anthropologie va être une entreprise de compréhension et ensuite de description. Et l'utilité, si on peut parler dans ces termes, ça sera de porter un éclairage différent à ces enjeux environnementaux, et donc de pouvoir faire en quelque sorte un pas de côté et de questionner les certitudes, questionner ce qui a l'air d'aller de soi et le comprendre sous d'autres lumières. Et donc c'est ça vraiment l'utilité de la recherche en SHS en général.
Et donc après, c'est quand même, enfin, ça sert aussi à changer, à modifier les politiques, c'est ça, enfin.
Ça peut aboutir sur des nouvelles politiques publiques. Ça peut aussi aider à adoucir des postures dans des espaces conflictuels.
À faire évoluer des mentalités aussi ?
Oui.
Ouais.
Vraiment, cette idée du pas de côté, de porter un éclairage différent sur quelque chose qu'on trouve qui va de soi. Et donc, revenir dessus, le comprendre sur, à partir d'autres points de vue. C'est vraiment une entreprise de compréhension qu'on essaye de mettre en place avec les SHS.
Et donc la chercheuse, malgré elle, devient une sorte d'arbitre, en fait. On pourrait dire ça, presque, dans les situations conflictuelles, hein, je veux dire.
Ça peut être. Les résultats ne plaisent pas toujours et ne vont pas toujours dans le sens que les politiques publiques, enfin que les pouvoirs publics ou que les partenaires divers peuvent attendre. Ça peut surprendre. Donc, c'est pas vraiment un arbitre, mais c'est véritablement une manière de déconstruire des postures, des certitudes.
Mmh. Et en matière d'écologie, par exemple, qu'est-ce que ça peut être, déconstruire une certitude ?
Dans le cas de ma thèse, par exemple, ça va être réquestionner des choses qui ont l'air d'aller de soi, par exemple l'extermination des espèces exotiques envahissantes.
Est-ce qu'il faut exterminer les espèces exotiques envahissantes,
ouais. Est-ce que cette violence dans la conservation doit aller de soi, doit être questionnée? Quelles sont les implications du point de vue éthique de ces pratiques? Ça, c'est un exemple qui est lié à mon travail actuel.
Alors, un travail de 4 ans, c'est pas mal hein, pour une thèse. Hein, ça dure plutôt 3 ans, les thèses, souvent, non c'est...
Oui, mon financement actuel est pour 3 ans. J'essaye aujourd'hui de prolonger d'une année ma thèse. Et donc, ça veut dire obtenir de nouveaux financements.
Parce qu'elle a commencé en 2020. Est-ce que vous pourriez déjà nous redéfinir une réserve naturelle officiellement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui caractérise une réserve naturelle?
Alors, la réserve naturelle, c'est un outil juridique de protection qu'on appelle forte et qui vise un espace naturel qui est considéré remarquable pour diverses raisons. Donc ça peut être parce qu'il y a des objets géologiques rares à protéger. Ça peut être parce qu'il y a des espèces qui sont remarquables ou en danger, ou qui sont rares aussi. Ça peut être parce que cet espace a une importance du point de vue du fonctionnement écologique, aussi parce qu'elle est remarquable, représentative, ou qu'il s'agit d'un écosystème en danger, dont le recul inquiète et donc qu'on veut préserver.
Et c'est un outil juridique français ou c'est européen ou mondial?
Les réserves naturelles, c'est un outil juridique français, mais elles s'inscrivent dans une série d'espaces naturels protégés qui, au niveau international, sont classés dans des catégories de protection. Selon la réglementation, parce que la caractéristique particulière des réserves naturelles françaises, c'est que leur réglementation est adaptée au niveau local, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule réglementation pour toutes les réserves naturelles de France.
Ah ouais, je croyais, d'accord.
Elles partagent trois missions, mais les règles, est-ce que les chiens doivent ou pas être attachés, par exemple, ce sont des arbitrages locaux.
Ah oui.
Oui, donc cette...
Donc il y a toujours une sorte de comité de pilotage en fait qui préside à la réserve en France quoi. Une réserve naturelle, il y a des pilotes quoi, c'est ça.
Oui.
Et c'est qui en gros qui décide?
Ça va être les autorités de classement. Donc il y a deux types de réserves, trois avec les réserves de Corse, mais disons naturelles et nationales.
C'est pas facile.
En Bretagne, ça va être les réserves naturelles nationales et les réserves naturelles régionales. Et il y a un troisième type, qui sont les réserves naturelles de Corse. Voilà.
On ne va pas en parler parce qu'on n'est pas en Corse.
Exactement. Donc ici en Bretagne, il y a deux types. Donc les autorités de classement des réserves naturelles nationales, ça va être l'État.
Le ministère de la transition écologique, je suppose.
Exactement, représenté au niveau régional par la DREAL.
Mmh.
Et pour les régionales, ça va être évidemment la région. Donc il y a très peu de différences du point de vue de la gestion de ces deux espaces, mais pour le classement... pour les nationales, c'est à durée illimitée, tandis que pour les régionales, ça va être à une durée déterminée, mais renouvelable.
Mmh, d'accord.
L'État a le pouvoir de contraindre un propriétaire qui ne serait pas d'accord quand même de classer son bien, alors que la région a besoin de l'accord du propriétaire, qu'il soit privé ou public.
C'est ça qu'on dit, forte, protection forte, ça veut dire qu'il y a par exemple une police locale de l'environnement, c'est ça, enfin, plus ou moins de contraintes.
Ça veut dire qu'il y a une volonté de préservation de longue durée et qui souhaite préserver cet espace tel qu'il est actuellement, qui souhaite préserver son fonctionnement, le caractère esthétique, les éléments qui le composent, de manière durable et au nom de la patrimonialisation de cet espace.
Ouais, alors c'est vrai que patrimonialisation comme terme, ça fait un peu mise sous cloche, c'est ça. C'est sans doute ça que les détracteurs des réserves naturelles vont dire, ouais, mais enfin bon, on met sous cloche, quoi, c'est ça.
Oui, c'est une expression qui est souvent utilisée après, qui est... De fait, impossible. C'est impossible de mettre n'importe quel espace sous cloche. Il y a une continuité dans les flux d'eau, d'air.
Et oui, on ne peut pas dire à l'air d'arrêter de...
Exactement. Donc déjà, c'est impossible. Les animaux, même les plantes vont...
Se déplacer, ouais.
Et donc, ça, c'est déjà de fait impossible de mettre sous cloche. Et encore une fois, du point de vue de la gestion, ce sont vraiment des outils... gérer localement. Donc, il y a un comité consultatif qui va être composé d'acteurs locaux où les autorités de classement sont représentées. Les organismes gestionnaires, ce sont généralement des organismes avec un ancrage local, que ce soit des associations, de collectivités territoriales, des établissements publics, etc. Et puis, encore une fois, la réglementation est adaptée à l'objet que l'on souhaite protéger. On ne protège pas de la même manière un lieu où il y a la reproduction d'une espèce d'oiseau rare. Donc, on peut même interdire d'y aller, ce qui est le cas, par exemple, dans une partie de la réserve des Sept-Îles. Et on ne protège pas de la même manière des objets géologiques remarquables. À Groix, par exemple, on peut se balader assez librement. Il y a la chasse, il y a la pêche. parce qu'on ne protège pas de la même manière, d'accord, encore une fois, les pierres que les oiseaux.
À l'île de Groix, c'est que les pierres qui sont protégées, quasiment.
Pour l'instant, ah ouais, l'objet de protection à Groix, ce sont les objets géologiques rares et remarquables. Avec le projet d'extension, ça peut évoluer, mais aujourd'hui, tel que le décret a été conçu, l'objet de la réserve de Groix, c'est un objet géologique.
Mmh. Et donc, on peut restreindre l'accès éventuellement à ces réserves. Et même, qu'est-ce que vous avez comme exemple de restriction d'accès
On peut restreindre l'accès à toute la réserve, à une partie de la réserve, au nom de la fragilité de l'espace ou de la fragilité des êtres vivants qui s'y trouvent, de leur rareté, leur fragilité, etc. Et donc, par exemple, une des choses les plus intéressantes que moi-même j'ai apprises pendant la durée de ma thèse, enfin, ces années que je travaille sur les réserves naturelles, j'avais l'impression de loin qu'une réserve naturelle, c'était un espace donné où on menait des actions pareilles partout, disons. Et en fait, ce sont des espaces, même les plus petits, qui sont cartographiés et gérés de manière différente selon des secteurs. Et donc, par exemple, à Séné, il va y avoir une partie qui est accessible toute l'année à titre gratuit, où il y a des observatoires au long de la rivière de Noyalo. Il va y avoir une autre partie où on a un espace d'exposition, d'autres observatoires, qui sera accessible qu'une partie de l'année et qui sera payante. Et il y aura des parties entières de la réserve qui ne sont pas accessibles ou peu accessibles, réservées à certains publics, à certains moments de l'année, pour des raisons de conservation. Et donc, même au sein d'une même réserve, on va différencier des secteurs en fonction des objectifs de conservation que l'on met en avant.
Et qui fait respecter ce type d'interdiction, enfin, ces contrôles ?
Dans le cas des Séné, ça va être, comme il s'agit d'une réserve en congestion, il s'agit d'un conglomérat de différentes institutions. Donc, il y a trois organismes qui sont dans la congestion. Bretagne Vivante, qui est une association naturaliste d'importance régionale, même nationale.
On connaît bien, sur Radio Évasion, on reçoit souvent Bretagne Vivante.
Il y a la mairie de Séné et il y a l'Amicale des Chasses, qui est donc une association de chasseurs locales.
Et donc ces personnes sont assermentées, ils ont droit par exemple de mettre des amendes ou des choses comme ça?
Pas toutes.
Ah oui, d'accord.
Au sein de l'équipe de la réserve naturelle des marais de Séné, ça va être une personne de la commune qui est assermentée au titre du garde du littoral, parce qu'au sein de la réserve, il y a des propriétaires, des terrains qui sont propriétés du conservatoire du littoral. Donc il y a une personne assermentée à ce titre-là. Et il y aura des gardes techniciens qui sont assermentés et qui travaillent pour Bretagne Vivante.
D'accord.
Les chasseurs ne font pas partie de personnes qui sont assermentées.
Oui, oui. Ça, c'est sûr que j'imagine que ça susciterait des réactions. Alors, peut-être que c'est vrai que c'est important, Lorena Cisneros Armas, que vous nous fassiez un peu le portrait de toutes les réserves sur lesquelles vous travaillez, parce qu'il y en a quand même, il y en a combien déjà ?
Quatre.
Quatre. Et alors, quelles sont-elles ? On les a évoquées comme ça vite fait, mais déjà, on n'a pas parlé de toutes.
Non. Donc, j'ai quatre réserves, deux nationales et deux régionales. Les nationales sont la réserve de Séné.
Donc c'est des marais, c'est ça ?
Oui, la réserve des marais de Séné. La réserve de l'île de Groix, qui s'appelle François Le Bail.
Ah oui. Donc là, c'est une réserve de quoi ? De falaises, de rochers ?
Il y a des falaises, des rochers. Et puis, il y a toute une partie estrin avec des objets géologiques remarquables. Du côté de la pointe des Chats, si vous connaissez l'île de Groix.
Non, j'avoue que je ne connais pas l'île de Groix. Mais
ça
pour ceux qui connaissent, ben d'accord, nous irons dans le Morbihan.
Et l'autre côté, c'est Penmen. Ce qui est intéressant pour Séné, c'est un seul site. Et pour Groix, ce sont deux sites séparés et distincts, dans deux bouts de l'île différents.
Alors Séné, c'est à côté de Vannes, hein, je précise, puisqu'on est dans le Finistère. Donc, et c'est assez, oui, c'est assez facile d'accès, enfin, en tout cas pas pour la réserve, mais la ville, enfin, c'est une ville, Séné. Donc, voilà.
Oui, les deux sont dans le Morbihan, donc oui. Les deux nationales. Groix, c'est au large de l'Orient et Séné, en effet, dans l'agglo de Vannes. Et les deux réserves naturelles régionales que j'étudie, avec lesquelles je travaille, ce sont Soujal, en Ille-et-Vilaine. la baie du Mont-Saint-Michel dans l'arrière-pays, du côté de la Bretagne. Juste sur le bord, sur la limite entre les deux régions, donc irrigué par le Couesnon. C'est un marais qui est un pâturage collectif depuis le Moyen-Âge. C'est une propriété communale, un communau.
Et c'est du pâturage de bovins plutôt, c'est ça? Ou de moutons aussi?
De plus en plus de bovins, historiquement des oies.
Ah oui. Les oies pâturent, j'ignorais.
Aujourd'hui, le troupeau d'oies, le dernier troupeau d'oies qui pâturait sur le marais de Soujal, l'année où j'étais à Soujal, c'est-à-dire l'année dernière, n'a pas été mis au pâturage à cause de la grippe aviaire.
Oui.
Et ça faisait 2 ans, si mes souvenirs sont bons, que le troupeau n'avait pas été mis en pâturage. Mais historiquement, c'était les oies. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de bovins. Il y a aussi un troupeau de chevaux qui est mis au pâturage à Soujal. Et la dernière réserve, ce serait Glomel. Ce sont des landes et des marais. Des Glomel, donc Côte d'Armor.
Et à Glomel, c'est quoi la particularité? Enfin, c'est la faune, la flore
La raison pour laquelle elle a été classée, c'est la diversité d'habitats humides et pauvres en nutriments. Et donc ça lui donne une richesse floristique particulière et une faune, un insecte intéressante, notamment avec 2 espèces de papillons rares et protégés.
Donc ces 4 réserves sont, est-ce qu'elles sont de taille à peu près équivalente? Enfin, ça, c'est quelle est leur surface à peu près, quoi?
Non. Et d'ailleurs, c'est en raison de leur très grande différence. Enfin, l'idée de ce choix-là, c'était de avoir beaucoup de diversité pour éviter la tentation d'une approche comparative systématique. L'idée, c'était vraiment de voir comment les réserves fonctionnent comme des outils, encore une fois, de portée nationale, mais qui s'adaptent à des contextes locaux très divers, avec des histoires très diverses, avec des configurations locales très diverses. Donc, ce sont des réserves très différentes du point de vue de la gestion, des organismes qui gèrent, mais aussi des intérêts écologiques très divers. Et des surfaces. Donc, il va y avoir des sites uniques comme Séné-Soujal ou des sites séparés. À Glomel, il y a 2 sites, même 3, parce que le deuxième au sud de la commune, ce sont 2 sites proches, mais quand même distincts. Et à Groix, ça va être 2 sites, comme je disais, distincts et éloignés, situés dans 2 bouts de l'île.
Et vous, Lorena Cisneros, vous êtes donc anthropologue, je vais le redire, et vous étudiez donc les rapports humains en fait avec l'environnement. Donc, quels sont les enjeux dans les différentes réserves que vous étudiez? Parce que ça doit être très différent d'après ce que vous nous dites.
Oui, la manière dont l'outil réserve s'adapte à ces 4 contextes géographiques est très diverse. Mais ce qui les réunit dans ma thèse, c'est comment est-ce qu'on habite ces espaces.
Oui, ils sont tous habités, c'est ça? Enfin,
oui.
À peu près, ouais.
C'est-à-dire que toute la question, c'est comment on les habite, parce que personne n'y vit. Aucun humain n'a résidence au sein de ces réserves.
D'accord, il n'y a pas de maison, quoi. Voilà.
Non.
OK.
Il n'y a pas de maison humaine.
OK.
Et donc, elles sont évidemment habitées par une série d'êtres vivants qui sont protégés ou non, ou contre lesquels on se bat.
Ah oui.
Donc c'est le cas des espèces exotiques envahissantes, par exemple. Et donc ma question, c'est comment est-ce qu'on les habite? C'est-à-dire, quel est le rôle, les rôles différents
oui.
que les humains entretiennent et comment ils entrent en relation avec ces êtres vivants? Et donc ils configurent ce que j'appelle, en empruntant un terme écologique, des cohortes multispécifiques. Qui vont traverser ces espaces, qui vont les modeler, qui vont les habiter.
Mmh.
Et donc c'est ça que j'essaye de comprendre, de décrire dans ma thèse.
Et alors prenons l'exemple par exemple de la réserve de Glomel. On n'a pas trop parlé des enjeux. Est-ce qu'il y a dans cette réserve, Lorena, est-ce qu'il y a des problèmes particuliers, des conflits humains là, enfin, des enjeux humains en tout cas?
Oui, bien sûr, il y en a. Comme dans toutes les réserves. Pour Glomel, ce qui moi m'intéresse au titre de ma thèse, dans cette idée de comment est-ce qu'on habite les réserves. Une des choses qui m'a le plus intéressée, c'est comment est-ce qu'on réagit à l'absence ou à la diminution d'effectifs d'espèces protégées qui ont pourtant été parmi les raisons de classement de cet espace. Et donc c'est le cas des deux papillons qui sont rares et protégés et dont les effectifs diminuent. Et pourtant, les gestionnaires s'évertuent de rendre accueillante la réserve pour ces papillons. Et donc, c'est très intéressant de voir comment est-ce que on essaye d'accueillir, d'attirer une population de papillons qu'on ne peut pas vraiment aller chercher et ramener.
Ben oui, c'est ce qu'on disait, la réserve n'est pas vraiment sous cloche. Les papillons vont où ils veulent.
Où ils veulent et où ils peuvent aussi.
Où ils peuvent, bien sûr.
C'est-à-dire que la réserve, quand elle est classée, on ne peut pas la mettre sous cloche. En revanche, des infrastructures humaines peuvent l'isoler du reste du tissu naturel. Et c'est le cas à Glomel où une quatre voies est en construction. Où
donc là, on est dans le centre Bretagne, on est dans les Côtes d'Armor, c'est ça, mais c'est quand même, voilà, c'est une sorte de carrefour maintenant. C'est la N164, enfin, elle est quasiment finie, hein, cette quatre voies.
Et donc, cette quatre voies va encore isoler cette réserve, va rendre difficile la circulation de certains animaux. Donc, pour les grands animaux, il y aura des passages à faune qui ont été pensés, mais pour les insectes, pour les tout petits, pour les papillons, c'est difficile de penser leur circulation par rapport à une quatre voies.
Évidemment.
Comment est-ce qu'on les fait traverser? C'est une question qui se pose.
Des papillonoducs, là. On fait des crapauducs pour les crapauds, on les fait passer sous les quatre voies, mais c'est vrai que pour les papillons, ça paraît plus difficile. Oui.
Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir comment est-ce que l'équipe de la réserve réfléchit à, non pas à se mettre en deuil, mais à comment quand même rendre attirante, accueillante la réserve pour ces populations de papillons.
Et c'est vrai. Alors, les insectes, en plus, ils sont réputés plus sensibles à tout ce qui est pollution. Est-ce que ça, c'est... Finalement, ces réserves, elles sont quand même à proximité d'activités humaines qui sont hors réserve, qui les concernent. Et est-ce que ça, c'est un des enjeux dont on parle sur, je pense bien sûr aux questions agricoles, notamment
Absolument. Et au centre Bretagne, c'est un enjeu fort. À Glomel, la réserve, par exemple, est à côté d'un énorme champ agricole industriel avec beaucoup de pesticides. Donc la réserve, qu'elle est toute petite, elle a quand même réfléchi, les gestionnaires ont quand même réfléchi à des talus tout autour. Donc ils ont fait une sorte de tampon pour protéger le centre, disons, de la réserve, pour essayer de réfléchir à comment rendre l'eau de la meilleure qualité possible. Donc il y a des mesures. Il y a des suivis qui sont faits sur la qualité de l'eau au sein de la réserve. Et la réserve remplit un rôle de purification, en fait. Le territoire de Glomel est donc un territoire agricole.
Oui.
Mais aussi, c'est un territoire où il y a un site Seveso, donc Triskalia est présente sur le...
Et Seveso à cause de l'agriculture notamment ou
Des Triskalia.
D'accord, oui. Donc Seveso, c'est des rhizopollutions en fait, c'est ça.
Exactement.
Hein. Très bien. Et donc, j'imagine que le dialogue n'est pas toujours facile entre ces humains à Glomel.
Ça dépend des configurations politiques aussi, socio-économiques, locales, parce que Triskalia, aussi la mine, ce sont des activités économiques importantes où des gens sont employés et c'est important pour le territoire. Donc il y a des négociations qui passent par différents canaux et des formes de dialogue qui vont impacter la manière dont on pense la conservation dans cet espace-là.
D'accord, ok. Donc, et c'est, j'imagine que les dialogues sont très différents d'une réserve à l'autre. Hein. C'est, là, on parlait de Glomel, mais...
Absolument. Ouais. Ça dépend aussi de qui est le propriétaire des espaces qui sont mis en réserve. Dans le cas de Glomel, c'est la fondation de chasseurs. Dans le cas de Soujal, ça va être la commune. Ça dépend, ça dépend dans chaque configuration locale. C'est ça qui est très intéressant de cet outil. C'est à quel point l'ancrage local détermine la gestion.
Et alors, la chasse dans les marais de Séné, que font les chasseurs? Enfin, ça paraît tellement étonnant, quoi. Que font les chasseurs? Pourquoi sont-ils? Comment se fait-il qu'on puisse chasser dans les marais de Séné?
Ben ça, c'est lié à l'histoire locale de comment est-ce que cette réserve a été conçue, a émergé. Aujourd'hui, la place des chasseurs est celle des gestionnaires, et celle des gestionnaires d'une partie de la réserve. Donc, ils s'occupent d'une partie des bassins qui accueillent des oiseaux. Et il y a une partie où la chasse est permise.
Mais alors, ils ont le droit de chasser quoi, par exemple? Ils n'ont pas le droit de chasser les oiseaux rares, j'imagine.
Non, ils suivent la loi. Ouais. Donc, il n'y a pas de passe-droit spécifique du fait qu'ils sont gestionnaires. Ils n'ont pas le droit de tuer des espèces protégées. Ils ont le droit de tuer les oiseaux d'eau, qui tous les chasseurs ont le droit de tuer au Morbihan, dans le Morbihan.
Ah oui, d'accord.
Donc, ils suivent la loi et ils suivent les calendriers officiels de chasse.
Mais ils ne sont pas employés pour réguler, parce que vous parliez des espèces envahissantes exotiques. Hors antenne, on a parlé tout à l'heure du ragondin. Alors là, par contre, c'est un autre type de chasse dans une autre des réserves, c'est ça? Vous pouvez nous en parler?
Oui, c'est Soujal. Mais le ragondin est piégé à Glomel et à Séné aussi. Pas à Groix, à ma connaissance. Mais à Séné et Glomel, oui. Alors, il y a une différence entre la chasse et le piégeage. La chasse est un loisir qui suit des réglementations et des lois spécifiques. Le piégeage n'est pas considéré comme un loisir. C'est vraiment un outil de gestion qui suit aussi des réglementations spécifiques, mais très diverses de la chasse. Le piégeage, c'est considéré comme une petite chasse qui était aujourd'hui encore, mais qui à l'origine était une manière de se défendre, des agriculteurs qui se défendaient des animaux qui n'étaient pas les leurs.
Mmh. Parce que le ragondin, il vient d'ailleurs, et puis en plus, il cause des dégâts dans le milieu naturel, c'est ça?
Oui, alors... disons que y a les dégâts, oui, il fait des trous, il fragilise des berges, il peut s'attaquer à des récoltes, il va manger le maïs, il adore, et voilà, c'est un herbivore, donc il s'attaque à des récoltes, il y a des dégâts. Au sein de Soujal, ce qui pose problème, le ragondin pose problème, parce que Soujal, le marais de Soujal est un marais qui est géré, qui est très géré, disons. Mm-hmm. Il fonctionne plus comme il fonctionnait autrefois. Ah. C'est-à-dire qu'il a été asséché, le couénon a été recalibré, il a été creusé, donc il arrive plus à inonder le marais comme il le faisait autrefois. Donc c'est une réserve qui a besoin de vannes, de...
Ah oui, elle est plus si naturelle que ça, en fait.
Disons qu'on essaye de restaurer au maximum, d'imiter au maximum le fonctionnement naturel, mm-hmm. entre guillemets, qu'il avait autrefois. Et donc on essaye de maintenir le rôle écologique du marais en forçant... les moments d'inondation, en retenant l'eau, en la laissant partir, aussi pour accommoder des calendriers humains, c'est-à-dire les calendriers du pâturage,
pas
notamment.
De l'élevage, ouais, c'est ça, oui. D'accord.
Donc, il y a des moments où on a besoin que l'eau parte pour que le sol soit portant et que les vaches puissent arriver.
Et le ragondin, qu'est-ce qu'il fait?
Et ben, le ragondin, il fragilise les berges et il fragilise les berges aussi des canaux d'assèchement, et donc le système de circulation et de maîtrise des niveaux d'eau est mis à mal, disons, par le ragondin.
Mais qui prolifère en plus dans le marais de Soujal, il prolifère. Donc là, on était obligé entre guillemets de. Enfin, on sait que les gestionnaires ont décidé en tout cas de le réguler, quoi.
Voilà. Ouais, et donc, on voit bien que la conservation, c'est aussi une pratique violente. Dans ce sens-là, qu'on tue des ragondins pour protéger le fonctionnement écologique de ce marais. Et qu'on doit. Enfin, on les tue au nom de la conservation.
Ouais.
Donc, ils sont. Il y a un philosophe, Tom Bandoulen, qui dit « Ces animaux sont sacrifiés au nom de la conservation. »
Donc c'est une question que même des gens du Marais posent. Enfin, j'imagine les gens qui travaillent qui vivent pas loin du Marais, ils s'indignent un peu de ça. Enfin, c'est ça, il y a des conflits autour de ça ou...
Pas tellement. Ce qui est intéressant dans la configuration de Soujal, c'est que Soujal est un patrimoine naturel. Donc, il y a un fonctionnement écologique qui est mis en valeur, le fait qu'il y a le brochet qui se reproduit, le fait que ça accueille les oiseaux d'eau et que ça fonctionne avec la baie du Mont-Saint-Michel. Mais c'est aussi un patrimoine culturel et historique. Ce que je disais sur le pâturage collectif, c'est une pratique qui remonte au Moyen-Âge. Donc, il y a une place très importante des pratiques humaines au sein du marais de Soujal. Et le piégeage du ragondin répond à la fois à un besoin de la conservation, mais aussi c'est une pratique locale. C'est-à-dire qu'on a piégé le ragondin. Le ragondin est présent en France depuis une centaine d'années à peu près.
Mais quand même. Mmh.
Et donc,
on
a toujours fait comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours piégé le ragondin et on réfléchit au piégeage de ragondin aussi comme une pratique sociale admise dans ce territoire. Dans d'autres réserves, ça s'est fait autrement.
Ouais. Intéressant. Alors, on arrive déjà au terme de cette émission, mais vous allez bien sûr pouvoir revenir, Lorena Cisneros. Merci beaucoup. À bientôt.
Au revoir.